j'aimerais vous parler du Dieu des délivrances. Et je voudrais vous emmener dans un récit de l'Ancien Testament. Et ce récit est tellement important que la Bible dit, et j'aimerais que tu projettes ce texte, 1 Corinthiens 10, 11, où l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, va dire que ces événements dont je vais vous parler sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Déjà, l'apôtre Paul, il y a 2000 ans, il a écrit que nous étions à la fin des temps. À combien plus forte raison sommes-nous à la fin des temps aujourd'hui? Sommes-nous là pour nous préparer à ce retour de Jésus? J'aimerais vous parler donc ce matin de cette délivrance la plus spectaculaire de l'Ancien Testament et qui a continuellement été prise comme exemple pour tous les croyants de tous les temps. Car ce que Dieu a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je voudrais que chacun d'entre vous puisse pas seulement dire « Un jour, Dieu a fait ça ». Je sais que la Bible raconte certaines histoires. Ou « Un jour, il y a 30 ans, j'ai vécu ça avec Dieu ». Mais que chacun vous puissiez dire « Ce que je vis aujourd'hui avec Dieu, c'est vrai, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement ». Dieu peut agir aujourd'hui. Attendez-vous à ce qu'aujourd'hui, quelque chose se passe dans votre vie. Il peut délivrer, car son cœur de père est tel qu'il est touché par chacune de nos souffrances. Il entend les soupirs de chaque cœur contrit et brisé. Il recueille même les larmes que personne ne voit, car c'est un Dieu de près, non pas un Dieu de loin. Ce n'est pas un Dieu juste une puissance. Ce n'est pas juste un créateur qui a mis un jour le monde en route et puis qui ne s'en occupe plus. C'est un Père plein de sensibilité, plein de compassion pour agir et prendre en compte ce qui se passe dans nos propres vies. Nous qui sommes que cendres et poussières, qui sommes qu'un grain de sable dans l'univers, un parmi les 7 milliards sur cette terre. Dieu s'intéresse à nous. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, j'aimerais vous parler de la délivrance du peuple d'Israël, de l'Égypte. Israël est tellement loin du projet initial de Dieu. Réduits en esclavage depuis des générations. Depuis des générations, ils sont descendus avec la famille de Jacob. Ils étaient 70 personnes, nous dit la Bible. 70. Ils ont eu en héritage une belle partie, un beau coin de terre, en terre d'Israël, le pays de Goshen, nous dit l'Écriture. Et là, ils se sont installés, tout se passait très très bien. C'était les promesses de Dieu. Ils étaient partis avec ses promesses. Jacob était encore un des patriarches. On parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Donc Jacob qui lui part, vieux, avec ses fils en Égypte. Il emmène avec lui les promesses de Dieu. Il est vivant dans le Seigneur et sa foi est vivante. Mais avec le temps, avec les années, toutes ces choses, avec la mort de Jacob, toutes ces choses se sont un peu diluées. Avez-vous remarqué que si on ne fait pas attention, les choses de la foi se diluent facilement? Je disais à quelqu'un, si vous ne faites rien, vous ne restez pas au même niveau. Si vous ne faites rien, vous baissez forcément de niveau. Si vous vous mettez dans un lit, que vous ne faites rien du tout, est-ce que vous allez vous muscler ou est-ce que vous allez faire quoi? Vous allez vous affaiblir. Il ne faut pas être médecin pour le dire, ça. C'est évident. Si vous ne faites rien, vous allez forcément baisser dans votre foi à tout niveau. Il faut toujours faire quelque chose pour que notre foi augmente, notre relation avec Dieu se fortifie, de même que notre corps aussi. Alors, Israël en Égypte a commencé à s'installer et ils ont peu à peu oublié les promesses et le projet initial de Dieu. Et nous sommes comme ça, nous oublions aussi. Nous négligeons, nous oublions, passons à autre chose, nous avons tellement d'activités. Mais Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas, il est fidèle. Il se souvient de ses alliances. Viendra le moment où toutes choses vont changer. Maintenant, je vous invite à lire avec moi dans Exode, chapitre 2. Et nous lisons le verset 23. Depuis longtemps, Joseph, Jacob ne sont plus. Je vous l'ai dit, Israël est installé en Égypte. Un nouveau pharaon est arrivé, maître de la civilisation de l'époque. Et c'est lui qui a regardé ce peuple différent, ces Juifs, qui ne sont plus chez eux, mais qui sont chez lui, et qui ont dit, mais tiens, ce peuple se multiplie d'une façon intéressante. Et vite, grandissent, multiplient, et ils vont devenir un danger pour moi. Donc il va les mettre sous pression et en esclavage, il va les faire travailler pour qu'ils ne pensent à rien d'autre que leur travail. Ça vous dit quelque chose? Et il va mettre la pression, la pression, la pression. Et là, le peuple, sous la pression, se souvient de Dieu. Écoutez ce que la parole nous dit ici. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient sous la servitude et poussaient des cris. Le rappel du sein de la servitude monta jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur soupir. Et Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et Dieu prit conscience de leur situation. Alléluia. Dieu prend conscience, Dieu s'intéresse à ta situation. Passons au chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, il parle donc à Moïse, « J'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. » Et un dernier texte, au chapitre 6, deux versets, où Dieu va encore dire à Moïse ceci, verset 6, Exode 6, 6. « C'est pourquoi dis aux Israélites, « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent, je vous rachèterai par la force de mon bras et par le grand jugement, je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, je serai votre Dieu, et vous reconnaîtrez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » Dieu est le Dieu des délivrances. Ce que l'homme ne peut pas faire, ce qu'aucune culture, aucune civilisation ne peut faire, Dieu peut le faire. Et c'était tellement puissant que le Seigneur a voulu que ce soit gardé en mémoire et que chaque année, en Israël, la plus grande fête en Israël, c'est justement cette fête qui rappelle ce souvenir-là. C'est la fête de Pessah, Pâques. Dieu a voulu que chaque année, pendant 7 jours, on se souvienne de cette délivrance tout à fait extraordinaire et spectaculaire, qu'on se souvienne sans jamais oublier ce que Dieu a fait et de ce qu'il est capable de faire. Car nous voulons dire ce matin, Dieu est capable de faire là où l'homme ne peut pas. À nous de faire ce qui est possible. Dieu se charge des impossibilités. Je vous délivrerai, je vous affranchirai, je vous rachète et je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Dieu ne laisse jamais tomber son plan original ou originel. Il ne laisse pas tomber son plan. Si nous l'oublions, lui ne l'oublie pas. Car il est fidèle à son alliance. Donc nous sommes à environ 1450 avant Jésus. Jacob est donc descendu en Égypte, comme je l'ai dit. La délivrance, après 430 ans, vous imaginez, 430 ans d'esclavage. Qu'est-ce que les gens, est-ce qu'ils pensent encore au pays promis? Après autant d'années, ils se sont accommodés en Égypte, ils se sont installés, ils ont accepté comme un fait de passer d'esclave en esclave, de père en fils, de génération en génération. Ils n'ont pas des perspectives d'avenir et pourtant ils multiplient. Normalement, quand vous avez des enfants, c'est que vous leur donnez une perspective d'avenir. Mais quel avenir avaient-ils? Ils étaient depuis 430 ans en esclavage et les enfants devenaient esclaves à leur tour. Et pourquoi alors avoir des enfants s'ils deviennent des esclaves? Et pourtant, il y avait une multiplication. Parce que le projet de Dieu était déjà en eux et le temps de la délivrance approchait. Mes amis, même au plus fort de la dépression, au plus fort de la tristesse et du manque de perspective, du manque d'avenir et de tout horizon fermé, même là au milieu de cela, il y a encore un lumignon qui fume encore. Il y a encore quelque chose qui reste vivant parce que Dieu a toujours mis en vous une graine d'espérance qui ne meurt jamais, qui ne meurt pas. Et c'est ainsi que le peuple commençait à multiplier, car Dieu veillait Et dans ces circonstances les plus défavorables, les plus noires, avec un pharaon qui a augmenté la pression, plus il voyait le peuple grandir, plus il se fâchait. Plus l'Église grandit, plus le diable se fâche. C'est une réalité, ça. Vous croyez que le diable il laisse tourner les choses comme ça en voyant que l'Église grandit ? Il y a des pays où elle grandit très fort, d'ailleurs. Pharaon était en furie contre ce peuple qui n'est pas le sien, mais qui l'utilise comme esclave pour ses constructions. Il est en furie de voir ce peuple être davantage béni que lui. Et il entreprend donc d'augmenter la pression de travail, etc. Plus, il prévoit un génocide incroyable. Il va ordonner que tous les enfants, les petits garçons qui naissent, soient mis à mort. Et dans ces circonstances, va naître dans une famille pieuse, parce qu'il y a encore de la piété malgré tout. Après 430 ans, il y a encore des restes de piété en Israël, en Égypte. Il y a encore ces choses qui sont vivantes. Et dans une famille va naître un petit garçon. Il est bien sûr en danger dès le berceau. Mais Dieu veille, menacé. Il est posé dans une corbeille sur le Nil. Les parents, le cœur lourd, doivent le lâcher parce que c'est plus possible de le garder. Cette corbeille s'en va sur le Nil et sera récupérée, imaginez, par la fille de Pharaon. Incroyable! Quel hasard, quelle histoire! Dieu est plus grand que les circonstances les plus défavorables. Dieu est plus grand. Dieu est plus grand. Enregistre, frères et sœurs, enregistrez cette phrase dans votre tête. Dieu est plus grand que toutes les circonstances les plus pénibles. Parce que là, vraiment, c'était la fin des haricots, on va dire. C'est la fin de tout. Et pourtant, Dieu est en train de veiller, même lorsque la population naissante est mise en danger de mort. Moïse, c'est bien lui. Moïse va être récupéré par Pharaon, va donc être à la cour du roi, à la cour de Pharaon, être enseigné dans la sagesse des Égyptiens. Il va grandir, 40 ans vont se passer. Et un jour, il découvre qu'il est juif. Il est habillé comme un Égyptien, il est coiffé comme un Égyptien, il a la posture royale d'un Égyptien à la cour de Pharaon. Et pourtant, il découvre qu'il est juif et il va rencontrer ses frères esclaves. Et il croit qu'il doit faire justice. Il doit entreprendre quelque chose. Il y a comme une motivation intérieure en lui. Il y a comme une vocation en lui. Et il veut régler humainement les comptes entre un juif qui se fait tabasser par un gardien égyptien. Et il va tuer l'égyptien. Ce sera découvert. Même s'il l'a caché dans le sable, ce sera découvert. On ne peut pas laisser les choses cachées comme ça. Et là, alors que son appel intérieur, il n'a pas encore rencontré Dieu, mais il a son appel intérieur qui est déjà là. Cette vocation est déjà présente, avant même la révélation de Dieu sur sa vie. Il est déjà là et il doit fuir. Dieu est plus grand que nos erreurs. Dieu est plus grand que nos bêtises, nos fautes, nos péchés, nos échecs, nos maladresses, nos mauvais choix. Dieu est plus grand. Est-ce que tout va tomber par terre parce que Moïse a mal commencé ? Il est entré dans les mauvais rails, dans la mauvaise vocation. Il a tout raté. Est-ce que pour autant le plan de Dieu s'arrête ? Non. Il est donc en fuite. Il va partir dans le pays de Madian, quitter l'Égypte. Il va épouser la fille d'un simple berger. Sa femme s'appelle Séphora. Son beau-père s'appelle Jéthro. Il avait tellement de filles. 7 filles. Jéthro de filles. J'en donne une à Moïse. Et donc son nom, Jéthro, est un nom extraordinaire parce que Moïse va profiter de toute la sagesse de son beau-père. Vous lirez tout cela. Puis vient le moment où Dieu va se révéler personnellement à Moïse. Du temps a passé. 40 ans de plus ont passé. 40 ans de plus. Quel âge il a Moïse maintenant ? 80. Et il est dans ce désert. Et la Bible dit que derrière le désert, il voit un buisson qui brûle et là, Dieu se révèle. Il voit tout de suite, ça c'est Dieu qui me parle. Et Dieu dit, tu vas dire à Pharaon, laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Et Moïse va dire quoi ? Non, c'est pas pour moi. J'ai tout loupé dans ma vie, c'est pas possible, tu vas choisir quelqu'un d'autre. Et il va se battre avec Dieu, il va dire non ici, il va dire non là, il va dire prends quelqu'un d'autre. Je ne sais pas parler, je ne suis pas ton homme, Seigneur. Dieu est plus grand. Dieu est plus grand. Dieu ne va pas laisser tomber. Dieu ne va pas laisser tomber car il a entendu les soupirs de tout un peuple qui crie. Ce peuple ne connaît plus Dieu, mais Dieu entend les cris. Peut-être que vous ne connaissez pas Dieu ce matin, mais Dieu entend votre soupir. Dieu entend ce qui se passe au fond du cœur que personne ne sait. Il le sait. Et c'est pour cela, pas parce que vous avez bien fait, parce que vous avez réussi, parce que vous êtes croyant, c'est pas pour ça que Dieu vient. Il vient parce qu'il a compassion de vous. Il a compassion. J'ai vu mon peuple, nous l'avons lu. J'ai vu sa misère, j'ai entendu son cri. Je connais sa douleur. Et je suis descendu pour le délivrer. Dieu ne vient pas parce que nous sommes des gens bien qui réussissons. Dieu vient parce que lui-même est bien. Lui-même est bon, lui-même est rempli de compassion. Et je dis, c'est moi qui vais délivrer mon peuple. Je vais le faire. Même si le chemin des hommes est compliqué, que ça ne marche pas comme on veut. Tout, à cause de tout cela, le Seigneur ne quitte pas et ne lâche pas ce qu'il a commencé. Alléluia. Dieu ne lâche pas ce qu'il a commencé dans ta vie. Et puis il va commencer. Commencer ce grand combat. Ce combat de titans. Ce combat de géant, il va y avoir ce combat entre la puissance de Pharaon et la puissance de Dieu, entre la lumière et les ténèbres, entre Emmanuel et Belzébul, entre les pouvoirs démoniaques horribles des Égyptiens, parce qu'il ne faut pas oublier que dans nos livres d'histoire, l'Égypte est dépeinte comme une civilisation extraordinaire, et je crois qu'il l'était, on ne veut pas dénigrer ces choses, civilisation hors du commun, une civilisation de pointe à l'époque, mais on oublie de dire que l'Égypte utilisait des pouvoirs de magie extraordinaires. Ce sont des pouvoirs occultes, ténébreux, qui liaient la population dans des liens de fer et qui les mettaient dans des prisons horribles. Et lorsque ce combat de titans va commencer, Moïse, dans sa faiblesse, dans sa fragilité, va s'avancer vers Pharaon avec l'ordre de Dieu. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Pharaon va résister, va dire non. Et Dieu va prévenir son serviteur Moïse pour dire Pharaon ne va pas vous laisser partir. De même, Satan ne va pas comme ça être d'accord de laisser partir les âmes dans le royaume de Dieu. Il va tenir résistance. C'est pour ça que la vie chrétienne, elle est constituée de combats, mes amis. Ce n'est pas juste une autoroute qui nous amène tout droit au ciel. C'est un chemin où nous devons prendre des positions, nous devons apprendre à laisser Dieu combattre avec nous. Et nous sommes pris dans ce genre de combat de titans parce que, pourquoi est-ce que Pharaon ne lâche pas la main sur Israël ? Même s'il sait que le Dieu d'Israël est plus fort, il va le prouver 10 fois d'affilée, les 10 plaies, seront la démonstration de la puissance supérieure de Dieu par rapport à la puissance occulte des Égyptiens. Il faut savoir que chacune des plaies est un jugement contre une divinité égyptienne. Chaque divinité égyptienne était jugée et Dieu montrait « c'est moi qui suis l'autorité suprême ». Est-ce que vous allez enfin reconnaître ça ? Pharaon refuse. Pourquoi ? Parce que derrière Pharaon, il y a quelqu'un qui s'appelle Satan. Et Satan sait qu'à partir de ce peuple, une fois délivré, va sortir le grand libérateur qui s'appelle Jésus. Et comme il sait ça, il va faire tout pour ne pas qu'Israël sorte, mais qu'Israël soit broyé, disparaisse, anéanti, parce qu'il sait que de là vient le sauveur du monde. Nous ne devons jamais nous étonner que lorsqu'il est question de salut, il y a des résistances, il y a des combats. Des personnes se convertissent très facilement, puis d'autres personnes, il y a des résistances de tout genre dans les pensées, dans les circonstances, dans les familles, où il y a vraiment de l'opposition farouche. Combien de fois n'ai-je pas vu des gens très sympathiques lorsqu'on leur demandait « Est-ce que tu veux te décider pour Jésus ?» ou bien « Est-ce que tu veux prendre ton baptême maintenant ?» Ces personnes voulaient, mais tout à coup, il y avait une résistance qui s'est manifestée. Des familles, des parents, des personnes qui étaient très gentils, tout à coup devenir vraiment farouchement opposés, sans véritable raison, parce que c'est spirituel, c'est un combat spirituel. Et qu'est-ce qui va finalement délivrer le peuple, finalement, après ce combat de titans, après ces 10 plaies, la dernière plaie va être celle-ci. Dieu va demander à Moïse et à tout le peuple qui est d'accord de prendre un agneau, petit agneau, de 1 an, de le garder quelques jours, de le mettre à mort, de prendre son sang et de mettre le sang sur la porte de leur maison. Et c'est le sang de cet agneau-là qui fera la différence. L'ange de la mort va passer et Dieu va, en prévenant, si tu ne laisses pas partir mon peuple, les premiers-nés de tous les Égyptiens vont mourir, sauf ceux qui appliqueront le sang sur leur maison. Donc tout le monde pouvait le faire. Israël pouvait le faire ou ne pas le faire. Même l'Égypte pouvait aussi le faire. D'ailleurs, il y a des Égyptiens qui ont suivi cela. Ainsi arrive cette dernière étape de ce grand combat où le sang de la délivrance a été appliqué. Voici ce qu'il est dit dans Hébreux, tu peux mettre, Hébreux 11, 28. C'est par la foi que Moïse fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'Israël, Hébreux 11, 28, c'est par la foi qu'il a célébré la Pâque, donc la délivrance, versé le sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né. Mes amis, écoutez bien. C'est la foi dans le sang de l'agneau de Dieu, c'est plus l'agneau d'Israël en Égypte, mais c'est l'agneau de Dieu qui nous permet de ne pas être touchés par le destructeur. Car Jésus est notre agneau. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il nous est dit dans 1 Pierre 1,19, nous sommes délivrés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il est notre Pâque. Il est notre libérateur. Il est celui qui, par son sang, qui parle toujours, qui est toujours puissant et efficace, peut aujourd'hui vous délivrer de la main de n'importe quelle autorité qui vous domine. Quelle que soit l'autorité qui vous domine, frères et sœurs, qu'elle soit plus grande que celle de Pharaon encore, l'autorité de Jésus est plus grande. C'est le sang de Jésus qui a coulé à la croix du calvaire. Il y a 2000 ans, à Golgotha, ce sang-là n'est pas le sang comme n'importe quel autre sang humain. Ce sang pur et saint du Fils de Dieu, mort sans péché, pur et parfait, son sang nous purifie. Et cette autorité qu'il exerce peut vaincre n'importe quelle autre autorité. C'est pour ça que cette histoire de la délivrance de l'Égypte est absolument unique et c'est pour cela que Dieu a demandé que Israël s'en souvienne de génération en génération de cette délivrance. Jusqu'aujourd'hui, la fête de Pâques, c'est la plus grande fête juive. C'est pour ça. Je vous affranchirai. Je vais vous délivrer. Je vais vous racheter. Je vous prendrai. Je vous ferai entrer dans le bon et merveilleux pays, car j'aimerais vous dire ce matin, l'Égypte n'est pas votre pays. C'est le royaume de Dieu qui est votre pays. Car il y a un changement de royaume qui va s'opérer. Israël est en train de quitter, ils sont plus de 2 à 3 millions de personnes. Ils vont sortir d'Égypte parce que Pharaon ne peut pas empêcher la main de Dieu de les faire sortir. La puissance de Dieu les fait sortir de ce royaume d'Égypte et va les faire entrer progressivement dans son royaume, le pays où coule le lait et le miel. Et Dieu ne veut pas que tu habites éternellement en Égypte. Que tu sois sous la main et sous la férule de Pharaon ou de toute autre domination mauvaise qui lie ta vie, qui t'emprisonne pour être esclave, Dieu veut ta délivrance. Le Fils de Dieu a paru afin que nous soyons délivrés. Celui que le Christ a franchi est vraiment libre. Alléluia. La vie chrétienne, c'est ça. C'est un changement de royaume. C'est un changement de royaume. Nous avons, l'apôtre Paul va dire dans Colossiens 1,12, tu peux mettre ça aussi, « Rendez grâce au Père » qui nous a délivrés du royaume des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est Colossiens 1,12. Rendez grâce au Père qui nous a délivrés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et maintenant, j'aimerais ajouter quelque chose d'important. Nous sommes en train de préparer un service de baptême. Je voudrais ici insérer une pensée extrêmement importante. Tu peux mettre 1 Corinthiens 10, versets 1 et 2. 1 Corinthiens 10, versets 1 et 2. Donc Israël est en train de sortir et ils vont se confronter à un nouvel obstacle. Lequel ? La mer Rouge. La mer Rouge est devant eux. Derrière eux, l'Égypte qui les poursuit. À droite et à gauche, des montagnes. Ils ne peuvent pas s'enfuir. Et au milieu, il y a ce peuple de 2 à 3 millions de personnes avec tous les enfants, le bétail, etc. etc. Que faire ? Il faut de nouveau une délivrance miraculeuse pour tout ça. Dieu n'oublie pas son peuple. Et il va faire en sorte, au travers de Moïse, tu vas lever ton bâton, tu vas prendre l'autorité que je te donne et tu vas voir ce que je vais faire. Voici ce qu'il a dit. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer Rouge, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Car Israël va passer à sec la mer Rouge qui va s'ouvrir pour eux, pour les laisser passer vers la vie nouvelle. Et la mer va également se refermer sur qui ? Sur toute l'armée des Égyptiens qui vont les poursuivre, qui va se refermer pour eux. Et là sera la défaite de l'adversaire. La mer Rouge, c'est le passage, c'est la frontière entre un ancien royaume, l'Égypte, et un nouveau royaume, le pays promis. La mer Rouge, c'est la frontière, c'est la borne entre un hier et un demain. C'est la borne qui est établie pour que nous puissions savoir clairement où nous situer. Tu ne peux pas rester dans cette mer. Soit tu es d'un côté, soit tu es de l'autre. Ça, c'est le baptême. Le baptême, c'est la victoire où Dieu me conduit en me transportant, en me délivrant d'un royaume pour me mettre dans un autre royaume, où lui est Seigneur. Car n'oubliez pas qu'en quittant la mainmise de Pharaon, l'ancien maître qui doit lâcher, ils sont dans la main d'un autre maître qui est le Père Céleste, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ce maître-là, il faut l'accepter. On ne peut pas être neutre, mes amis. Tu ne peux pas quitter le royaume d'Égypte en disant maintenant je suis sur un terrain de liberté, je fais ce que je veux de ma vie. Parce que inévitablement tu vas retourner en Égypte parce que Pharaon et son armée vont te récupérer. Tandis que si tu es dans la main de Dieu, nul ne te ravira de la main du Seigneur. Alléluia. Et tu es transporté dans son royaume après avoir passé par la mer Rouge qui est l'image du baptême, qui met une distance entre ces deux royaumes. Il y a une distance, une séparation, où il y a eu un jugement de l'adversaire. C'est pourquoi le baptême que nous faisons régulièrement ici se passe dans de l'eau, image que Jésus lui-même a ordonné, où nous allons mettre dans la mort notre vieille nature, notre nature sans Dieu et notre vie ancienne, que nous allons laisser cette nature dans l'eau et nous nous relevons pour partir en nouveauté de vie. Je voudrais vraiment vous encourager parce que ce passage est obligatoire, était nécessaire pour que l'armée de Pharaon soit définitivement vaincue. C'est par la foi, nous dit le texte d'Hébreux 11, c'est par la foi qu'ils ont passé la mer Rouge. C'est par la foi. Donc c'est dans la foi qu'aujourd'hui, peut-être que tu as été baptisé il y a 10 ou 20 ou 30 ans, c'est par la foi que tu peux prendre possession de cette victoire. Si l'armée de l'Égypte essaye de te titiller, de te ramener encore une fois dans les liens du passé, dans les péchés du passé, dans les tentations du passé, tu peux dire, ma vieille nature, elle est dans l'eau. Il y a une victoire qui a été prise, il y a une mort à notre vieille nature qui a été proclamée. L'armée de l'Égypte, elle est dans l'eau, elle est finie, terminée, elle est jugée, elle est anéantie. Il y a une victoire spirituelle. Le baptême, c'est une victoire spirituelle à laquelle vous pouvez tout le temps faire référence. Vous me suivez ce matin ? Vous pouvez toujours faire référence à ce baptême. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire « Ils ont été baptisés en Moïse ». Et nous disons « Nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ ». Ça, c'est le baptême du Nouveau Testament. Mais l'image est très forte. C'est pour ça que je veux vraiment l'insérer alors que nous sommes en train de préparer cette série de baptêmes. Si vous n'êtes pas encore baptisé, réfléchissez. Prenez cette décision d'obéissance au Seigneur car le baptême vous positionne clairement dans votre foi chrétienne. Elle vous donne une position de victoire. Alléluia, le Seigneur est merveilleux. Je termine par un dernier point encore. Ce matin, Dieu est le Dieu des délivrances. Il ne regarde pas nos échecs. Il va plus loin que les mauvaises circonstances. Il va plus loin que tout ce qui semble vraiment anéanti au niveau de la foi. Il, il est fidèle, il vient à la charge, c'est lui qui délivre, car il a vu notre cri, notre souffrance intérieure, il vient vers nous, il vient vers nous. Et maintenant, j'aimerais encore juste ajouter un autre point. Israël, qui va sortir lorsqu'ils vont passer la mer Rouge, lorsqu'ils verront derrière la mer se refermer sur l'Égypte, ils vont être tellement surpris qu'ils vont faire un chant de louange, ils vont faire une danse, ils vont faire un cantique de louange que vous lirez dans Exode chapitre 15. Mais Israël ne connaît plus son Dieu. Ça fait trop longtemps, on ne leur a plus parlé de Dieu. Il n'y a jamais eu d'enseignement. Tout ce peuple, qu'est-ce qu'il connaît de Dieu? Ils ont un tas de mélanges dans leur vie. Et j'aimerais en parler dans les dimanches prochains. Comment être délivré de la vieille mentalité d'esclave, de la vieille mentalité du désert? Parce que alors qu'ils sont sortis d'Égypte, l'Égypte n'est pas encore sortie de leur cœur. Peut-être que vous êtes sortis de vos liens, de vos vieilles manières de pratiquer, que vous êtes entrés dans le royaume de Dieu, vous êtes sauvés, vous aimez Jésus, mais il y a encore des choses du passé qui traînent en vous, s'accrochent à votre peau, qui s'accrochent à vos pensées et vous veulent vous ramener en arrière. Comment être libéré de ça? Ils ont été physiquement délivrés, ils sont dans le royaume de Dieu maintenant, mais il y a du travail encore à faire, il y a tout un processus à faire. Et je vais en parler dimanche prochain. Et ce que j'aimerais juste souligner aujourd'hui, ah, quelle belle pensée, c'est que Israël ne connaît pas son Dieu, mais Dieu connaît Israël. Écoutez, lisez avec moi dans Exode 4, Exode 4, juste deux versets, versets 22 et 23. Donc Dieu parle à Moïse, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né, je te le dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve. » J'arrête juste là. Israël est mon fils, mon premier-né. Israël, non Seigneur, ce n'est pas juste ce que tu dis. Israël, c'est un peuple d'esclaves. C'est un peuple qui t'a complètement oublié, Seigneur. C'est un peuple qui ne sait plus où il en est. Il a perdu toute perspective. Les promesses d'Abraham répétées à Isaac et à Jacob sont oubliées. Seigneur, ça fait trop d'années qu'ils sont en esclavage. Ils ont oublié. Mais le Seigneur n'a pas oublié son projet. Il est son fils. Mon ami, ce matin, Dieu te considère différemment que toi tu ne le considères. Si tu l'as oublié, il te dit, tu es mon fils, tu es ma fille, tu es mon premier-né, tu es mon bien-aimé. Parce que le premier-né, c'est celui qui prend toute l'importance. Hein. Le premier-né, ça change la vie d'un couple, le premier-né ou la première-née. Je me souviens, la première-née chez nous, ça a changé notre vie complètement. N'est-ce pas vrai? Le premier-né, c'est la découverte de la vie. Le Seigneur dit, tu es mon premier-né. J'ai compassion de toi. Je t'aime. Je donnerai ma vie pour toi. Quand vous avez un petit bébé à la maison, le premier-né, vous êtes prêt à donner votre vie pour lui. Vous aimeriez prendre sa maladie, ses petits problèmes de santé, vous les prendrez sur vous pour ne pas qu'il souffre. Vous ferez tout pour lui. C'est comme ça que Dieu voit la chose. Dieu dit, c'est mon fils, c'est mon premier-né. Israël est nulle part et pourtant c'est le fils. Israël est encore nulle part, il a oublié Dieu, mais Dieu le considère comme son fils. Tu n'es pas orphelin ce matin, tu es fils. Tu n'es pas orphelin, tu n'es pas oublié. Et le Seigneur va dire, je suis ton père. C'est la première appellation où le Seigneur va dire à Israël, je suis ton papa. Je suis ton papa. Je te nourris, je te protégerai, je donne ma vie pour toi. Je te considère, je t'éduque, je t'approuve, je t'encourage. Je suis là pour toi, quand tu veux, où tu veux, je suis toujours là. Est-ce que tu connais Dieu comme ton papa? Est-ce que tu connais Dieu comme ton Père? Ce matin, j'aimerais que tu puisses dire, Seigneur, je ne sais pas très bien où j'en suis. Je ne te connais pas très bien, mais si tu dis que je suis ton enfant, alors Seigneur, je me réjouis ce matin. Alors je suis content. Seigneur, je suis encouragé parce que j'ai besoin d'un papa dans ma vie. Nous avons tous besoin du Père. Vous savez que c'est un de mes messages que j'aime. Vous avez tous besoin de découvrir le Père. Le Père donne la ligne, l'éducation, donne aussi l'identité à son enfant. Retrouve ton identité en retrouvant ton Père. Tu n'es pas orphelin. Écoutez cette parole du Nouveau Testament. Éphésiens 1:5. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Dieu fait de nous ses enfants d'adoption. Encore un autre texte, Romains 8, 15 et 16. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Ça fait référence à la sortie d'Égypte, l'esprit d'esclavage. Israël, après avoir trempé 430 ans en esclavage, il avait un esprit d'esclave, n'est-ce pas? C'est évident. Il avait une mentalité d'esclave. Il était toujours à l'affût en disant « qu'est-ce qui va me tomber dessus? Quel coup je vais encore ramasser? Qu'est-ce qu'il va encore me demander ?» Et ils ont projeté ça sur Dieu. « Qu'est-ce qu'il va encore me demander? Qu'est-ce qui va encore m'arriver? Qu'est-ce qu'il va encore me faire ?» C'était le maître d'esclaves, Dieu, pour eux. Mais Dieu dit « j'ai besoin de vous délivrer de tout ça. J'ai besoin de vous nettoyer de tout ça. J'ai besoin de faire un nouveau lavage de votre pensée, de votre cœur pour vous dire « je suis ton papa, tu es mon fils. Arrête de croire que je suis un maître d'esclaves. » Tu n'es pas orphelin, mais tu n'as pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Beaucoup de gens ont peur de Dieu. Beaucoup de gens ont peur de Dieu. Ils se demandent, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il ne fait pas ci? Il ne fait pas ça? On a peur. C'est un esprit d'adoption. Rentre dans la dimension du Fils. Rentre dans la dimension du Fils. Découvre le Père. Prie-le, Seigneur, révèle-toi comme papa dans ma vie. Galates 4, 6, mon dernier texte. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es héritier. Alléluia. Tu n'es plus esclave. Tu as été délivré de la main de Pharaon. Tu es libre. Découvre le papa qui t'a délivré. Découvre le père qui te délivre aujourd'hui. Tu es son premier-né. Tu es son bien-aimé. Tu es sa priorité. Amen.